Il est 7h.
Le week-end de l'Ascension est une période où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de la disponibilité.
Un pont pour profiter et un pont pour se faire vacciner. Près de 430 000 injections hier en France, avec notamment des centres de vaccination éphémères qui voient le jour pour ce week-end prolongé. La vaccination qui permet aux États-Unis de lever l'obligation de porter le masque en intérieur. Dans ce journal aussi, des photos du Festival de Cannes aux retombées du plan de relance quand le gouvernement tente d'anticiper les conséquences d'une victoire du Rassemblement National en PACA. Et puis un joli coup de pouce pour un petit groupe de rock nantais qui s'est vu invité à la télévision américaine. Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Le retour du conflit israélo-palestinien fait des victimes collatérales. Joe Biden et les nouveaux alliés arabes d'Israël se retrouvent piégés.
L'édito sport, Virginie Fulpin. Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Pourquoi appelle-t-on un soutien-gorge un soutien-gorge?
Très bonne question et la réponse dans une vingtaine de minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et c'est aussi à cela que sert la vaccination. Aux États-Unis, les personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin vont désormais pouvoir se passer de masque en intérieur. C'est un grand jour pour l'Amérique, a commenté hier soir un Joe Biden tout sourire.
Si vous êtes entièrement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que c'est une grande étape, un grand jour. Vous avez le droit de faire quelque chose pour lequel les Américains sont connus dans le monde entier, accueillir les autres avec un sourire.
Sourire, dit Joe Biden, qui en profite donc pour appeler les Américains à aller se faire vacciner.
Une campagne de vaccination qui se poursuit en France. En ce week-end de l'Ascension, si certains centres ont dû fermer leurs portes faute de personnel, d'autres ont vu le jour à l'occasion de ce pont, comme à Foix, en Ariège, où Benjamin Péter a rencontré pour Europe 1 un primo-vacciné heureux.
Ça va bien. Vivement la deuxième dose.
Guillaume est soulagé. Ce jeune papa avait hâte de recevoir cette première injection.
J'ai vu le rendez-vous, j'ai fait OK, on prend. Comme ça, on est tranquille pour les vacances. On sait qu'on pourra revenir à le faire avant de partir en vacances. Et puis bon, pour aller voir la famille et tout, c'est vrai que ça sera plus agréable d'être vacciné vu que tous les grands-parents sont vaccinés.
Comme lui, 770 personnes ont pu profiter de ce centre de vaccination éphémère hier. Pour le docteur Philippe Caléja, qui est le responsable ici, c'est un moyen de toucher davantage les actifs.
Le gouvernement ouvre de plus en plus la disponibilité des créneaux de vaccination à des personnes de plus en plus jeunes. Ces personnes travaillent, donc il faut aussi qu'il y ait des disponibilités en dehors des heures de travail. Le week-end de l'Ascension est une période où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de la disponibilité.
Alors la mairie a fourni la salle et pour le personnel, ce sont en grande partie des élus ou des bénévoles comme Camille, qui est infirmière mais est venue sur son jour de congé.
Je prends sur moi, au lieu de me reposer, je viens faire de la vaccination, juste pour aider. Je trouve que c'est important de participer à cet effort national, c'est normal. Plus on sera nombreux à donner notre temps libre, plus on en sortira, j'espère, assez vite.
Et notamment grâce à cette opération, d'ici la fin du week-end, le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose devrait atteindre les 77 000 dans le département, soit plus d'un Ariégeois sur deux. À Foix, Benjamin Péter, Europe 1.
Un week-end de l'Ascension qui est aussi et surtout l'occasion pour chacun de souffler, de prendre l'air après des semaines de restrictions. 4 jours dont profitent également les professionnels de l'hôtellerie pour se relancer. Reportage dans un camping de Cheverny en Val-de-Loire. Nicolas Feldman pour Europe 1.
Ce qui nous a manqué le plus depuis un an, c'est être ensemble.
Salut.
L'occasion était trop belle pour cette bande de copains. 5 familles, une quinzaine d'enfants, ils viennent de Nantes, de Lyon, de la région parisienne. Et un point de ralliement, c'est bungalow à l'abri des saules pleureurs.
Moi je vis à Saint-Denis, donc l'ambiance c'est plus le béton. Là, le contraste ouais, nous fait beaucoup de bien. Quoi. Ça va nous faire une grande respiration pour ce week-end.
Et ce ne sont pas ces quelques gouttes de pluie qui vont gâcher la fête.
Si on doit faire des parties de cartes ou juste déconner entre copains sous les tentes ou dans les bungalows, ce sera déjà très bien.
D'autant que les enfants pour le moment s'occupent au calme à l'abri.
J'ai envie de faire ça.
Ça va les copains ?
À l'extérieur, Laurent, le gérant du camping, est un homme heureux. Toutes ses locations sont occupées.
Notre métier, c'est quand même d'accueillir les vacanciers, d'échanger. Donc oui, on est heureux. Aujourd'hui, c'est un vrai redémarrage avec des campeurs en caravane, en toile de tente, en location. On a besoin de cette vie-là. On en a été privé pendant longtemps. Voilà, c'était compliqué. C'est le grand week-end de la relance. On espère qu'il annonce plein de bonnes choses pour la saison.
Avec dès mercredi, une nouvelle étape dans le déconfinement, le gérant va pouvoir débâcher ses 2 piscines en extérieur et enfin rouvrir les terrasses du bar. Cheverny, Nicolas Feldman, Europe 1.
Et à l'inverse, la Guyane, elle, se reconfine aujourd'hui et jusqu'au 30 mai. Retour de l'attestation, déplacement limité à 10 km, fermeture des bars, restaurants et autres cinémas. Les établissements scolaires et les crèches, en revanche, restent ouverts.
Les écoles, où ont commencé à arriver ces derniers jours les autotests, présentés par le gouvernement comme une arme pour surveiller la pandémie. Une arme qui s'est quelque peu enrayée au démarrage.
Oui, avec une erreur sur les notices de près de la moitié de ces autotests. Le dispositif fonctionne, mais ce sont les explications pour lire le résultat qui pose problème. Pour Europe 1, Pierre Arvelo.
Une barre, vous êtes positif au Covid-19. Deux barres, vous êtes aussi positif au Covid-19. Voilà en substance le contenu de la notice de l'autotest PanBio. Un problème de traduction en français rapidement identifié par les enseignants et Philippe Vincent, président du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.
Pour tout vous dire, ça a beaucoup fait rigoler, quoi, parce que on se doutait bien qu'il y avait un résultat positif et un résultat négatif. Le plus gag dans l'affaire, c'est malheureusement que l'erreur portait sur le résultat.
Comique, mais sidérant, 43% des tests commandés par l'État ont cette erreur dans la notice.
On se disait quand même qu'au vu du nombre d'autotests commandés et du montant qui avoisine les 250 millions d'euros, on aurait pu sans doute prendre quelques précautions pour des produits qu'on allait adresser à des centaines de milliers de personnes.
L'Éducation nationale a envoyé un mail rectificatif à tous les profs et les directeurs d'établissement avec une notice corrigée. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Le mode d'emploi de l'un des trois autres types d'autotests commandés cette fois pour les élèves a aussi un problème. Il est traduit sans erreur en 8 langues. Il manque simplement la version française.
Bon, a priori, trouver des traducteurs à l'éducation nationale, ça devrait pas être trop sorcier.
7h06 sur Europe 1. Votre journal se poursuit avec, dans un instant, la situation toujours tendue au Proche-Orient. Mais d'abord, cette confession sur Europe 1. Écoutez bien, où quand Michèle Alliot-Marie a vu le poste de Premier ministre lui échapper de peu.
Et si elle le raconte pour la première fois ce matin sur notre antenne, c'est qu'on a choisi de s'intéresser aujourd'hui à la place des femmes à Matignon. Pourquoi 30 ans, presque jour pour jour après la nomination d'Edith Cresson, aucun autre gouvernement n'a été dirigé par une femme.
Edith Cresson livrera tout à l'heure son analyse à 7h40, c'est mon invité. Pour Michèle Alliot-Marie, en tout cas, l'histoire de cette nomination avortée ressemble à celle de nombreuses femmes en entreprise.
Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque, m'a appelé en me disant que le président de la République envisage de te nommer Premier ministre. Réfléchis-y, il faut s'y préparer. J'ai vu le président de la République le lundi matin. Très clairement, il m'a dit qu'il m'envisageait comme Premier ministre. Le mardi matin, il m'a appelé en me disant ben, finalement que j'ai décidé de nommer Dominique de Villepin. Voilà. Et après, j'ai appris effectivement que dans la nuit, Dominique de Villepin était allé à l'Élysée pour le rencontrer et il lui proposait de faire une équipe entre lui-même et Nicolas Sarkozy, qui serait ministre de l'Intérieur. Je ne me serais jamais permis d'aller voir le président de la République pour vendre ma candidature au milieu de la nuit pour essayer de convaincre le président de la République qu'il aurait mieux valu me nommer que quelqu'un d'autre.
Michèle Alliot-Marie au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Quand Matignon est aussi un enfer pour les femmes, notre dossier tout à l'heure dans le journal de 8h.
La course au régional. Et finalement, Sophie Cluzel ne se présentera pas pour La République En Marche en PACA.
La secrétaire d'État salue la liste de rassemblement bâtie par le président sortant Les Républicains, Renaud Muselier. Elle lui apporte son soutien. Un retrait qui coïncide aussi avec la montée du candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, donné vainqueur cette semaine par 2 sondages.
Alors si le RN prenait la tête de la région, quelles conséquences concrètes ? Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Mathieu.
C'est la question que se pose le gouvernement à la fois sur les symboles et dans les faits.
Oui, au-delà de l'impact politique d'un tel séisme qui renforcerait forcément la dynamique présidentielle de Marine Le Pen, il y aurait des effets d'image très négatifs pour l'exécutif. Par exemple, qu'à chacun de leurs déplacements en PACA, les membres du gouvernement soient accueillis par un président de région Rassemblement National, en l'occurrence Thierry Mariani. Autre conséquence très embarrassante, le Festival de Cannes. Pour de très nombreux ministres, il est insupportable d'imaginer des élus RN apparaître sur les photos des magazine à côté des stars du monde entier. En dehors de ces symboles, le plus fâcheux pour l'Élysée serait que le RN puisse être crédité des bénéfices du plan de relance impulsé par le gouvernement dans la région. L'exécutif a particulièrement investi en PACA, notamment dans l'économie locale et les infrastructures. Un plan cousu à 4 mains par Emmanuel Macron et Renaud Muselier. Un projet élaboré à un moment où le chef de l'État était encore convaincu du ralliement et de la victoire du président sortant de la région.
Explication et décryptage signé Louis Dragnel pour Europe 1. La confusion cette nuit au Proche-Orient. Dans un premier temps, l'armée israélienne a annoncé pensait avoir positionné des soldats dans la bande de Gaza, ce qui aurait été une première depuis le conflit de 2014. Mais quelques heures plus tard, Jean-Sébastien Soldaini, l'armée est revenue sur ses déclarations.
Deux heures de flottement quand pourtant le porte-parole de l'armée israélienne en personne confirme que des troupes au sol mènent une attaque dans Gaza avant de se corriger lui-même. Erreur de communication ou bien coup de pression sur l'enclave, ce n'est en tout cas pas une trêve. Au milieu de la nuit, les tirs de roquettes se multiplient, les bombardements de l'armée semblent incessants. La couleur du ciel vire à l'orange et Assia, habitante de Gaza, se cloître dans sa maison.
J'écoute des grands bombardements intenses et les chars ils vont encore entrer avec des gens bien armés, un grand armée. Pour rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de ma maison, c'est risqué. Rester à la maison aussi, c'était risqué. Je ne peux rien faire.
Elle garde en tête la dernière incursion de troupes israéliennes dans Gaza. 2014, 50 jours d'affrontements et plus de 2000 morts. Aujourd'hui encore, la communauté internationale semble impuissante. Le secrétaire général de l'ONU se borne à invoquer l'esprit de l'Aïd, la fin du Ramadan, pour faire cesser les combats.
Et l'ONU qui se réunira dimanche pour évoquer la situation au Proche-Orient à l'heure actuelle dans les deux camps. Les bombardements et les tirs de roquettes ont fait désormais plus de 100 victimes, dont une trentaine d'enfants.
Trois jours qu'il nargue les gendarmes, 350 gendarmes désormais mobilisés. L'auteur présumé d'un double homicide mardi dans les Cévennes est toujours recherché.
Présenté comme un solitaire apte à survivre en milieu hostile et après l'appel à la reddition lancé par les autorités en milieu de semaine, hier c'est son père qui s'est adressé à lui pour l'inciter à se rendre.
Valentin, c'est papa, je t'aime, nous t'aimons, nous avons tous besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Je t'aime. Nous sommes tous avec toi.
L'émouvant message d'un père à ce fugitif, donc recherché depuis mardi et depuis qu'il aurait tué son patron et un collègue dans cette aciérie des Plantiers dans les Cévennes. La qualification hier soir de Monaco pour la finale de la Coupe de France, les Monégasques qui ont battu le petit club de Rumilly, équipe de 4e division. Monaco qui affrontera donc le PSG mercredi prochain en finale de la Coupe de France. Enfin, la belle aventure américaine d'un groupe nantais, Mad Foxes. Ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant il a été invité au Tonight Show de Jimmy Fallon, une émission suivie par des millions de personnes chaque soir. Angèle Châtelier nous fait découvrir ce groupe et cette séquence pour Europe 1.
Here's Mad Foxes.
L'émission américaine de Jimmy Fallon, le Tonight Show, rassemble des millions de téléspectateurs chaque soir. Les trois musiciens de Mad Foxes, eux, sont amis, viennent de Nantes et leur rock garage n'a été écouté que quelques milliers de fois sur les plateformes de streaming. Mais Jimmy Fallon les a entendus sur une radio.
J'ai entendu ce groupe et j'ai adoré. Il est vraiment fantastique.
Alors il leur a demandé d'enregistrer une session live pour son émission. Difficile d'envisager une meilleure exposition médiatique. Lucas Bonfils, le chanteur du groupe, n'en revient pas.
Au début on croyait que c'était un canular vraiment, hein. C'était la meilleure promo possible. On a quadruplé d'écoute sur les plateformes, aussi sur les vues sur notre clip, donc ça fait super plaisir.
Et c'est un vrai coup de pouce pour promouvoir Ashamed, leur deuxième album qui vient de sortir. Pour l'instant, ils ne sont programmés que dans des petites salles en France à l'automne, devant une centaine de spectateurs, pas plus. Mais ce succès inattendu leur donne envie de se projeter beaucoup plus loin.
Mad Foxes, au moins ça réveille de bon matin.
C'est bien, moi je suis presque surpris que ce soit Jimmy Fallon qui me fasse découvrir un groupe français. Mais c'est pas mal. Mad Foxes, merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous. 7h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le 15 mai 1991, demain, cela fera 30 ans qu'Edith Cresson entrait à Matignon, la seule femme politique à avoir atteint le rang de première ministre. 30 ans après, avec notre nouveau regard éveillé sans doute sur les questions de parité, qu'est-ce qui a changé? Et tiens, qu'est-ce qui arrivera en premier à l'Élysée? Une femme ou la gauche? Je poserai la question à Edith Cresson. C'est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et c'est un bon baromètre de la santé retrouvée de l'économie américaine. Amazon recrute 75
11 000 personnes et augmente les salaires.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Une entreprise qui recrute 75 000 personnes. Oui, c'est possible. Ça se passe aux États-Unis. Et cette entreprise, tout le monde la connaît, c'est Amazon.
Oui, vous savez, tout est un peu hors norme chez Amazon. On se situe à une autre échelle par rapport aux autres grandes entreprises. Il faudrait même presque inventer un autre mot du style hyper-entreprise. Amazon est une des trois hyper-entreprises qui emploie plus d'un million de personnes dans le monde. Les deux autres sont Walmart, le distributeur américain, et China National Petroleum, la première compagnie pétrolière chinoise. Amazon est aussi une des très rares entreprises a réalisé plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre,
ah oui.
C'est-à-dire plus que Carrefour en un an.
Ok, Amazon en un trimestre, c'est plus que Carrefour en un an, d'où aussi évidemment des records d'embauche.
Alors voilà, 75 000 embauches donc, rien qu'aux États-Unis. Les besoins sont tels que pour trouver autant de monde très vite, Amazon offre même des bonus de 1 000 dollars aux nouveaux recrutés. Des nouveaux qu'elle paye 17 dollars de l'heure au lieu de 15 jusqu'ici. Le groupe de Jeff Bezos peut se le permettre, il a réalisé 26 milliards de dollars de profit depuis le début de la pandémie. Quand on dit qu'il est le grand gagnant de la crise du Covid, ça n'est pas un vain mot. Mais ce que l'on peut lire aussi à travers ces chiffres qui donnent le tournis, c'est l'extraordinaire reprise de l'économie américaine qui excède ce qu'on pouvait anticiper jusqu'à présent. Une reprise dont Amazon est un excellent baromètre car elle repose beaucoup sur la consommation.
Pour paraphraser un ancien patron de General Motors dans les années 50, ce qui est bon pour Amazon est bon pour l'Amérique et vice-versa.
Exactement. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que l'économie s'emballe. On commence à parler de surchauffe aux États-Unis. L'inflation a atteint 4,2% en avril, un niveau inédit depuis 2008. Elle n'était que de 2,6% en mars. Or, qui dit inflation dit hausse des salaires. Amazon est en train d'en faire la démonstration, mais trop d'inflation ne serait bon ni pour Amazon ni pour l'Amérique. C'est d'ailleurs la crainte du moment à Wall Street. La bourse américaine a subi un trou d'air cette semaine à cause justement de cette poussée d'inflation. Et au fond, quand on prend un peu de recul, c'est fascinant. Il y a un an, Mathieu, l'économie américaine connaissait sa pire récession depuis un siècle.
Vrai.
Un an plus tard, on redoute la surchauffe. Décidément, le monde change très vite.
Oui, oui, de quoi donner un peu le tournis parfois, cela dit. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h18 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les tirs de roquettes ont tué 7 Israéliens. En représailles, les bombardements de Gaza ont déjà fait une centaine de morts et 600 blessés. Et la crise fait des victimes collatérales. Joe Biden à Washington, les nouveaux alliés d'Israël dans le monde arabe.
Oui, Anthony Blinken a téléphoné hier à Mahmoud Abbas. Le secrétaire d'État américain a réclamé au chef de l'autorité palestinienne que cessent les tirs de roquettes sur Israël. Comme si Mahmoud Abbas y pouvait quoi que ce soit. Comme s'il avait autorité sur le Hamas ou le djihad islamique, les artilleurs, leurs financiers, leur soutien en Iran, au Qatar, en Turquie. C'est le contraire. Abbas est la bête noire des barbus. Il est aussi leur meilleur agent électoral. Depuis 15 ans, il règne par la corruption, il ruse et verrouille, il trouve toujours une bonne raison d'annuler les élections, de quoi désespérer les jeunes Palestiniens qui défient la police à Jérusalem. Abbas, coupable, mais pas responsable.
Pourquoi Anthony Blinken a-t-il parlé de ce coup de fil s'il est inutile ?
Ben, il tient à prouver qu'il s'active dans le bourbier où Joe Biden ne voulait pas mettre les pieds. Il a aussi nommé en vitesse un émissaire spécial, il bloque le Conseil de sécurité, l'Amérique protège son allié. Joe Biden n'a pas le choix, mais sa grande œuvre diplomatique, la reprise du dialogue avec l'Iran, va en souffrir. Hier, les sénateurs républicains lui ont réclamé la fin des discussions avec le pays qui arme le Hamas. Ils auraient pu ajouter que l'Iran arme aussi le Hezbollah, puisque la milice libanaise a tiré quelques missiles sur Israël, le Hezbollah, que cela démange de participer au chaos.
Le piège se referme aussi sur les nouveaux alliés arabes d'Israël.
Oui, les pays qui ont signé l'an dernier les accords d'Abraham poussés par Donald Trump, eh bien, ils marchent aujourd'hui sur les œufs. La crise ne remet pas en cause les calculs économiques du Soudan ou du Maroc, les calculs stratégiques des Émirats et de Bahreïn qui misent sur Israël pour contenir l'Iran et les islamistes parce qu'ils ne peuvent compter sur personne d'autre et surtout pas sur les Américains. Mais tous redoutent que la cause palestinienne rallume les passions. Les vidéos des violences à la mosquée Al-Aqsa ou contre les Arabes israéliens indignent les opinions publiques. Tout aussi néfaste, le drapeau du Hamas qui flottait hier sur la foule en prière sur l'esplanade des mosquées pour la fête de l'Aïd. Les frères musulmans ont de quoi jubiler, les alliés arabes d'Israël de quoi se sentir piégés.
Vincent Hervouet, merci Vincent, le regard international, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h20 et dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Le football français sera sous le signe de la lutte contre l'homophobie tout le week-end.
Et juste après, notre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce week-end, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont jouer avec des maillots floqués avec des numéros aux couleurs arc-en-ciel. Tiens, petit extrait ce matin de ce clip de la Ligue de football professionnel.
Direction Bollard, Clessant et Or qui trouve l'ouverture, Baptiste Van Roo.
Et les supporters du
On n'est pas des pédés.
Un clip qui se termine par cette phrase « Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot ». Pour vous, Virginie, la Ligue montre de bonnes intentions, elle est active sur ce sujet, mais le chemin sera long dans un milieu du foot encore très homophobe.
Ben, si on peut mesurer la pertinence d'une action à l'aune des réactions qu'elle provoque, alors il n'y a aucun doute, la Ligue a tapé dans le mille. On n'hésite jamais à dire quand la LFP fait des erreurs, c'est bien aussi de reconnaître quand elle joue son rôle. Inviter les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à floquer les maillots des joueurs avec des numéros arc-en-ciel, ça peut paraître anecdotique à la base, une jolie mise en scène, mais peu de fond. Mais quand j'ai vu les réactions provoquées chez certains supporters, je dis bien certains seulement, ça prouve aussitôt la légitimité de cette initiative. Entre ceux qui espèrent que leurs joueurs favoris vont refuser de porter ce maillot, ceux qui ne veulent même pas regarder ces maillots qui leur font si mal aux yeux, et ceux qui trouvent que la lutte contre l'homophobie n'a rien à faire dans le football, c'est assez vertigineux. Donc oui, visiblement, il y a urgence à faire évoluer les mentalités. Cette action ce week-end ne va pas régler le problème en deux temps trois mouvements, mais elle a au moins le mérite de nous faire regarder les choses en face. Si un simple maillot coloré en référence au mouvement LGBT suscite autant de rejets, je vous laisse imaginer ce que pourrait donner le coming out d'un joueur en activité.
Wissem Belgacem en parlait, je l'ai reçu il y a quelques jours sur Europe 1, lui qui raconte dans un livre son parcours difficile de footballeur gay. Je lui demandais si ça avance, si contre l'homophobie on progresse vraiment, écoutez.
Du moins dans le football, non. Non, ça n'avance pas, ça ne va pas mieux. On n'a toujours aucun coming out en France. J'entends pas beaucoup de discours inclusifs. Je vois quelques bribes d'initiatives, des brassards arc-en-ciel et autres, mais pour moi, ça n'a strictement aucun effet. Et il y a encore énormément à faire au niveau éducation avec même pas que les jeunes, hein, le staff, les coachs.
Virginie, on voit bien que le chemin est encore long.
Ce qui me semble important, c'est qu'enfin, on parle de manière beaucoup plus libérée de l'homophobie dans le football. Le livre de Wissem Belgacem est un exemple. L'action mise en place sur les terrains ce week-end en est une autre. Ce sont des petits pas, certes, mais ils existent. Maintenant, bien sûr que ça ne suffit pas. Tant qu'on verra des joueurs pour qui l'insulte suprême envers un adversaire sera de le traiter de tapette, il y aura du boulot. Parce que non, ça n'est pas le folklore du football, ni dans les vestiaires, ni sur le terrain, ni dans les tribunes. Ça n'a juste rien à faire là. Je sais que la Ligue a mis en place des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes footballeurs, mais il faut une vraie formation à la tolérance. Et puis quand le public sera de retour dans les stades, quand les bonnes et les mauvaises habitudes reprendront, il faudra être strict. Un chant homophobe, des cris racistes et on arrête le match, point barre. La sensibilisation, comme ce qui va se passer ce week-end, c'est bien. Mais malheureusement, il faudra aussi savoir manier la menace si ça ne suffit pas.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport avec vous tous les matins aux alentours de 7h20. Et à 7h25, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je vais tenter ce matin, cher Mathieu, d'avoir un peu plus encore que d'habitude votre attention. J'ai bien conscience que quand je propose, pourquoi dit-on, mettre la charrue avant les bœufs, ça ne vous passionne pas forcément. Mais alors aujourd'hui, pourquoi appelle-t-on un soutien-gorge un soutien-gorge? Alors, c'est vrai que je m'y connais plus en monarchie britannique qu'en lingerie, mais j'ai quand même remarqué que ça ne soutient pas du tout la gorge.
Ouais, effectivement, alors là je salue votre sens de l'observation, votre regard acéré. J'en profite Stéphane pour m'inscrire en faux, hein. Vous avez tous les jours mon attention à 100%. D'où vient ce soutien-gorge quand même, qui n'a pas du tout le temps s'appeler ainsi d'ailleurs?
Exactement, la gorge vient du latin gurges, le gouffre. Cela évoque un passage étroit entre deux montagnes. On peut donc en déduire qu'étymologiquement, le mot définit plutôt l'espace entre les seins. Avant 1904, on disait « maintien-gorge » ou « corse les gorges ». Brassière aussi, qui donnera en anglais « bras » pour dire « soutien-gorge ». Hein, Wonderbra. À chaque époque, ses us et ses coutumes. Pendant l'Empire romain, on serre sa poitrine à l'aide de bandelettes pour gommer la féminité. Pendant le Moyen-Âge, on porte des gourgandines, des corsets lacés dans le dos, Puis on l'interdit en 1370 par un édit et du coup on ne porte plus rien. On doit en fait le mot et l'objet, le soutien-gorge, à Herminie Cadol. C'est elle qui a l'idée de la scission entre le sertail et le corset. Communarde, féministe, amie de Louise Michel, Herminie Cadol signe l'arrêt du corset et c'est tant mieux, car il compressait dangereusement les cages thoraciques des femmes, entraînant entre autres scoliose, fausse couche et évanouissement. Et c'est pas Virginie qui va me contredire, parce que c'est important pour les femmes qui font du sport d'avoir des soutiens-gorge qui leur permettent de faire adapter. Exactement. Voilà, une seule question reste en fait en suspens. On la doit à l'acteur Eddie Murphy. Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire ? Bon, moi, je n'ai pas la réponse.
Très bonne question, on va rester en l'air hein, sur cette question. 16h-18h, c'est historiquement vôtre tout à l'heure.
Oui, on réunit l'écrivain Gustave Flaubert, le réalisateur engagé et enragé Pierre Paolo Pasolini et son œuvre qui divise, et un chanteur qui n'est pas mort, il dort, Michel Sardou. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Leur point commun, ils détestent leur époque.
À tout à l'heure, 16h. 7h28, Valérie Darmon est avec nous. On peut dire frais et gris en deux mots ?
Oui, on peut le dire. Je confirme, le ciel qui est nuageux ce matin, partout sur l'Hexagone et pluvieux sur trois quarts des régions. L'exception du jour, le bassin méditerranéen, la nature est généreuse en eau. Sur la Normandie, les Hauts-de-France, d'autres pluies s'établissent entre les Pyrénées et l'Alsace avec les plus fortes intempéries attendues entre la Lorraine et le Rhône. La neige qui prend le relais à partir de 1200 mètres dans les Pyrénées, 1500 dans les Alpes. Le temps qui est déjà ce matin plus sec et le ciel donc plus lumineux sur la façade atlantique comme près de la Méditerranée. Année, au prix d'un vent soutenu, hein, puisque les rafales de vent soufflent aux alentours de 80 km/h autour du golfe du Lion. Et cet après-midi, ce ciel qui vire à l'orage au nord de la Loire, sur le Grand Est, ainsi que près des Alpes et du Jura. L'accalmie qui se poursuit sur le littoral de l'Ouest, mais qui est de courte durée, puisqu'on a une nouvelle perturbation qui arrive ce soir sur le Finistère. Tout cela avec des températures à peine de saison, même légèrement en dessous. Les maximales entre 13 à Boulogne-sur-Mer et 22 à Marseille, à Paris et Biarritz, il fera 16 cet après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Quand vous faites une opération en Bitcoin, c'est à peu près la même chose que faire tourner 5000 fours à micro-ondes pendant les 10 minutes que prend l'enregistrement de l'opération.
Est-ce qu'il y a mal donne sur le Bitcoin ? On se pose la question ce matin. Elon Musk, le patron de Tesla, s'en détourne. Il serait polluant. Clément Le Saffre nous dira si l'argument se tient. Des autotests avant de sauter dans le train. La gare de Lille mise sur la prévention en ce grand week-end de l'Ascension. Et puis pas de miracle pour les amateurs de Rumilly, éliminés en Coupe de France par Monaco avec les honneurs. Et vous l'entendrez sous une haie d'honneur.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. L'unique femme à avoir été première ministre en France, Edith Cresson, dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. 5 ministres pour contrer Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, c'est l'édito politique avec Aurélie Herbemont. Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Yad Ben Achour, juriste universitaire tunisien. C'est l'auteur de L'Islam et la démocratie, une révolution intérieure chez Gallimard. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On nous le vantait il y a encore quelques mois. Souvenez-vous, au mois de février, le Bitcoin avait la cote. Il battait même record sur record. Aujourd'hui, eh bien, ça sent un peu le roussi. En tout cas, Elon Musk, le grand Manitou de Tesla, s'en détourne, prétextant que le Bitcoin aurait un impact négatif sur l'environnement. Clément Le Saffre, le patron de Tesla, est-il sincère ou est-ce qu'il y a un loup ? Est-ce que la crypto-monnaie est mauvaise pour la planète ?
Eh bien, derrière sa façade immatérielle, le Bitcoin présente un bilan carbone très négatif. Le processus de création de cette crypto-monnaie qu'on appelle le minage consiste à faire tourner des fermes de milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24. C'est donc très énergivore. Et le problème, en plus, c'est que 70% de ces fermes sont situées en Chine, où l'électricité provient encore massivement du charbon. Résultat, la moindre transaction en Bitcoin nécessite des quantités faramineuses d'énergie. Lionel Haré est directeur associé au Boston Consulting Group et spécialiste des crypto-monnaies.
Quand vous faites une opération en Bitcoin, c'est à peu près la même chose que faire tourner 5000 fours à micro-ondes pendant les 10 minutes que prend l'enregistrement de l'opération. Pour donner un autre exemple, et c'est moi ce qui m'avait beaucoup frappé quand Elon Musk a annoncé qu'il acceptait ces transactions, payer une voiture en Bitcoin, c'est équivalent à faire rouler cette Tesla sur 5000 km.
Et la frénésie récente autour du Bitcoin n'a pas amélioré la situation. Selon l'université de Cambridge, la consommation d'électricité liée au Bitcoin a été multipliée par 10 en 3 ans. Elle atteint désormais 150 TWh par an. C'est plus que la consommation de pays comme la Suède ou l'Argentine.
Et si Elon Musk voulait lancer sa propre crypto-monnaie, il s'y prendrait pas autrement. Après son annonce, le Bitcoin a perdu 14%. Merci en tout cas Clément Le Saffre pour ces précisions.
Avec le jeudi de l'Ascension fériée, vous n'avez peut-être pas pu vous faire tester avant de rejoindre vos proches pour ce grand week-end.
Eh bien ce matin sur Europe 1, on vous offre une solution. Certaines gares se mobilisent en distribuant des autotests à même le quai. Vous pouvez donc sauter dans le train en toute sérénité. On embarque gare à Lille-Flandre avec Maximilien Carlier.
Bonjour monsieur, vous partez en voyage ? Donc aujourd'hui là je vous propose un autotest à effectuer vous-même.
Des bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés un peu partout, gare Lille-Flandre, dans leurs mains des boîtes blanches avec écouvillon.
Donc c'est simple, il faut le rentrer dans chaque narine jusqu'au premier trait. Vous fermez le petit tube, ensuite vous allez mettre 4 gouttelettes dans la petite plaquette et au bout de 10 minutes vous avez le résultat.
Ouais, je le prends avec moi ça.
Oui, voilà.
Je vais l'utiliser comme ça si j'ai quelque chose, je protège mes enfants.
Protéger ses enfants, ses parents, grands-parents avant de se retrouver, comme c'est le cas de Claire, direction Grenoble avec son mari et son fils et dans le train, autotest pour tout le monde.
Ça va être la réjouissance du trajet. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se faire tester avant, donc ça tombe très bien. Mais en tout cas, voilà, on veut limiter les risques pour les rencontres avec la famille, quoi.
Alors bon, certains voyageurs réfractaires refusent les tests.
C'est pas parce que vous avez le vaccin que vous ne pouvez pas contracter le virus.
Mais la plupart acceptent, d'autant plus que c'est gratuit, des distributions tout le week-end dans des lieux fréquentés, gares, parcs, centres commerciaux, sur le front de mer également et dans des campings. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
La Guyane se reconfine aujourd'hui et pour 17 jours. La situation sanitaire s'est dégradée. Les établissements scolaires et les crèches restent ouverts, mais les bars, restaurants, cinémas devront fermer leurs portes. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. On respire. Les Américains entièrement vaccinés peuvent désormais tomber le masque en intérieur. Autrement dit, dans les magasins, les salles de sport, les cinémas. En résumé, partout sauf dans les transports en commun. Les États-Unis, à ce jour, ont vacciné intégralement près de 35% de leur population.
À la une de l'actualité également, le fugitif des Cévennes a passé sa troisième nuit dans la nature.
Plus de 350 gendarmes désormais tentent de localiser celui qui a tué mardi son patron et son collègue. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour essayer de retrouver la piste du tueur présumé qui est lourdement armé. Et le père de ce jeune homme s'est même adressé à lui, le suppliant de se rendre. En Espagne, c'est une autre cavale qui a pris fin. Il s'agit de deux Français soupçonnés d'avoir été à la tête d'industries pédopornographiques. Ils étaient en fuite depuis 3 ans et ont été interpellés avant-hier dans les Pyrénées-Orientales. Marion Dubreuil, il pourrait être remis aux autorités espagnoles dans les prochains jours.
Oui, cette fois-ci, le couple de pédocriminels ne pourra pas échapper à la justice. En 2017, ils avaient profité d'une libération sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès en Catalogne pour prendre la fuite. Les autorités ne feront pas deux fois la même erreur, car les charges qui pèsent contre les deux Français sont énormes. Ils sont soupçonnés d'avoir dirigé une industrie pédopornographique mondiale pendant plus de 10 ans, dissimulée derrière une société de pornographie légale. Ils alimentaient 24 domaines sur Internet en contenu inédit pour fournir 550 utilisateurs, le tout depuis la Catalogne. Quand la police espagnole a démantelé le réseau en 2016, elle a saisi 1600 DVD et identifié une centaine de victimes, des mineurs marocains pour la plupart, payés 10 ou 20 euros contre des actes sexuels filmés. C'est grâce à des écoutes que les policiers du Var ont finalement retrouvé la trace des deux Français sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Le couple résidait en toute discrétion à Amélie-les-Bains, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, sous une fausse identité.
Marion Dubreuil, du service police-justice d'Europe 1.
Au Proche-Orient, confusion cette nuit et cette question, est-ce que l'armée israélienne est entrée dans la bande de Gaza ?
Elle a annoncé en tout cas la présence de ses soldats dans cette zone avant de se rétracter. Israël qui a continué de pilonner Gaza hier alors que le Hamas a de nouveau multiplié les tirs de roquettes. Un nouveau conseil de sécurité de l'ONU se réunit dimanche.
On passe au foot et il n'y a pas eu de miracle pour Rumilly. Le club de 4e division n'ira pas défier le PSG en finale de la Coupe de France.
Et non, défaite face à Monaco 5-1 après avoir mené 7 minutes grâce au buteur amateur Alexis Peugeot. La machine monégasque s'est mise en route ensuite et les noms des monégasques nous sont un peu plus familiers. Ben Yedder, Golovin ou encore Fabregas. Julien Froment, les amateurs pourtant se sont bien montrés à la hauteur.
Oui, un parcours chaleureusement salué par l'AS Monaco qui, à la fin de la rencontre dans le couloir menant au vestiaire, a fait une aide d'honneur aux joueurs de Rumilly pour les féliciter, le défenseur monégasque Aurélien Tchouaméni.
On est admiratif de ce qu'ils ont fait, de leur parcours. Et puis aujourd'hui, nous, ce qu'on a apprécié, c'est que c'était une équipe qui a cherché à jouer, qui a, je pense, pris du plaisir durant ce match-là. On leur souhaite une bonne continuation.
La magie de la Coupe n'aura duré qu'une trentaine de minutes sur cette demi-finale, avant que les amateurs savoyards ne soient rattrapés par la dure réalité du foot professionnel. Mais l'essentiel est ailleurs, le milieu de terrain de Rumilly, Jocelyn Gay.
Le score est un peu lourd, 5-1, mais ça ne doit pas effacer tout ce qui s'est passé avant. Fallait juste voir les joueurs qu'il y avait sur la pelouse ce soir. Dans la compo, il y avait quand même deux champions du monde. J'ai juste allumé mon téléphone et à chaque message, je vois le mot fierté, donc... Juste ça redonne le sourire. Et peut-être qu'on vivra que ça une fois dans notre vie. Donc, c'est fabuleux.
Rumilly a aussi gagné d'un point de vue financier, puisque son épopée va lui rapporter un peu plus de 600 000 euros de gains. Quant à Monaco, c'est une affiche de rêve qui l'attend mercredi prochain au Stade de France contre le Paris Saint-Germain.
Les précisions de Julien Froment pour Europe 1.
Merci Lénaïque Monnier. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
10 ans après le printemps arabe. Ce matin sur Europe 1, Yad Benachour. C'est un universitaire tunisien, juriste. C'est l'auteur de L'Islam et la démocratie, une révolution intérieure. C'est chez les Gallimard, Yad Benachour qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Dans un instant, pourquoi Edith Cresson n'a-t-elle pas eu d'héritière? La seule et unique femme à avoir été première ministre en France. Un passage compliqué à Matignon où elle entrait il y a 30 ans, le 15 mai 1991. Le monde a-t-il changé? Le monde politique français? Edith Cresson dans le tête-à-tête Europe matin. Ce sera juste après La Touche Âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Vous avez toujours rêvé d'une dédicace vidéo de votre star préférée? C'est possible. Bon, ça coûte 20 euros.
A tout de suite sur Europe 1. Ça va, c'est pas trop cher. À tout de suite.
Vous voyez les stars quand même.
Europe matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, c'est l'heure de La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Salut Eric, c'est Bertrand. Ouais. Je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire. Bon week-end, bise. Voilà, en faisant ça, Mathieu, j'aurais pu me faire 20 euros.
Ah ouais,
et vous demandez sûrement pourquoi. Et bien parce qu'à notre époque, tout se monnaie, tout s'achète. Un article du Figaro m'a permis de découvrir un site qui propose de payer pour recevoir une dédicace vidéo personnalisée d'une célébrité. Le concept vient des États-Unis. L'an dernier, la société américaine a vendu 30 000 vidéos et réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. Ils comptent 40 000 stars dans leur catalogue, des acteurs de Harry Potter, de Star Wars, de Twilight ou encore de séries Netflix. En France, le site s'appelle Vidoléo et le principe est le même, vous payez, vous recevez votre dédicace. Bon, c'est juste au niveau du casting que ça change légèrement. Sur la version française, vous pouvez commander des vidéos personnalisées de... Samina Seri pour 95 euros. Victoria Schibsted des canapés Château d'Axe pour 80 euros. Francky Vincent pour 50 euros. Tex pour 25 euros.
Oh, mon Dieu,
le magicien Dani Larry pour 20 euros. Ou encore Pierre-Jean Chalençon. Véridique. Toujours dans les bons plans, hein, mon Pierre-Jean. Après le resto clandestin avec des plateaux repas SNCF à 500 balles, voici donc les vidéos dédicaces à 20 euros. Alors, certaines personnalités reversent les gains à des associations, mais ce n'est pas le cas de Pierre-Jean. Lui, c'est direct dans la popoche. Bah, depuis que les dîners clando au Palais Vivienne sont terminés, fallait bien trouver autre chose. Le souci, c'est qu'en termes de rente, un repas au Palais équivaut à tourner 25 vidéos. Résultat, il les enquille. C'est vraiment à la chaîne. Hein. Mais attention, c'est soigné. Hein. En voici une qu'il a réalisée pour un certain Michel.
Alors Michel voulait fêter un anniversaire spécial pour les 2 ans de ta société DTE. Et je pense que c'est important, car une jeune société, eh bien, c'est pas facile en ce moment.
Voilà, 20 balles pour une vidéo où il dit saucisse à la place de société. Et il ne fait pas la prise, alors qu'il m'a fait
ça, horrible,
c'est une affaire conclue.
Non, mais remboursé.
C'est l'école AB Production, Mathieu. La première prise est la bonne, on n'a pas de temps à perdre. Et puis c'est important de fêter les 2 ans de sa saucisse. Alors, dans le catalogue français, vous trouvez aussi un acteur de la Casa des Papels, ou encore Justin Bieber, pour 20 euros. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux, une dédicace de Justin Bieber vaut autant qu'une de Pierre-Jean Chalençon. Et puis j'ai compris, en fait, Justin Bieber, c'est un sosie, il s'appelle Dylan. Bref, c'est ça l'avenir. Les messages personnalisés payants. Avec la présidentielle qui arrive, il faut le relancer, la version inversée. Des anonymes qui font des vidéos de soutien payantes pour des personnalités politiques. Bonjour Monsieur Wauquiez, je vous adore, on croit en vous, allez Laurent! Là, pour 2022, mon choix est fait, ce sera Jacques Cheminade. Ça va faire un carton. On va se faire une de ces thunes avec ce concept. Allez, de mon côté, je me suis permis de nous inscrire sur Vidoléo, Mathieu. On sait pas de quoi l'avenir sera fait, alors autant s'assurer un truc. Puis j'ai inscrit Valérie Darmon aussi pour 16,30 €. Elle vous donne la météo personnalisée de votre ville. C'est sympa. Hein. Et si vous êtes sage, Lundi, c'est Sacha de début de soirée qui fera la chronique à ma place, parce qu'il est dans le catalogue lui aussi.
Ah non, alors non, alors là, non, pardon Bertrand Chameroy, je commence à vous connaître. N'importe quelle excuse pour passer début de soirée sur Europe 1 ce matin.
C'est pour vous souhaiter un bon week-end.
Il faudra juste qu'on m'explique pourquoi un Samy Nasseri vaut deux Francky Vincent qui lui-même vaut deux textes. Voilà, c'est le marché.
Les grands mystères de ce monde.
La touche âme tous les matins, 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin. Le 7-9.
Il est 7h44 sur Europe 1. On a beaucoup parlé cette semaine des 40 ans de l'accession de François Mitterrand à l'Élysée. Ce matin, une femme qui a contribué à cette victoire. Mais nous la recevons pour un autre anniversaire. Le 15 mai 1991, il y a 30 ans, Edith Cresson devenait la première femme à devenir première ministre en France. La dernière aussi. 10 mois seulement et aucune héritière. 30 ans après cette expérience malheureuse, il faut bien le dire, on y revient, on raconte, on analyse avec Edith Cresson elle-même, la première ministre et mon invitée ce matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Edith Cresson.
Bonjour.
Au cœur de l'histoire de la 5e République, vous entrez à Matignon le 15 mai 1991, il y a 30 ans. Vous souvenez-vous de ce que vous éprouvez, de vos sentiments au moment où vous prenez vos fonctions de Premier ministre ?
Dans ces fonctions de Premier ministre, je ne les ai pas recherchées. J'avais au contraire refusé la fonction et j'étais partie dans le privé, monter une entreprise. J'étais extrêmement réticente, d'abord parce qu'on était dans la deuxième partie du deuxième mandat, ce qui est la pire période. Je me souviens que je lui ai répondu « ils vont être furieux », ce qui n'a pas manqué. J'ai été tout de suite extrêmement attaquée, naturellement par les médias, et aussi par les hommes politiques de droite, et pas seulement de droite.
Alors vous dites beaucoup de choses, mais d'abord, vous ne dites pas « première ministre ». On dit Premier ministre en 1991.
Mais tout ça, tout ça n'a aucune importance, je m'excuse. Ce qui est important, c'est l'attitude des gens devant une fonction qui est une fonction essentielle de la République et qui existe dans d'autres pays avec aucune attitude aussi hostile de la part des commentateurs.
Autre chose très importante que vous avez mentionnée, les médias. Vous avez cité les médias avant vos confrères et consœurs politiques.
C'était le bébé de chaud qui me représentait comme une panthère lascive se traînant au pied de Mitterrand qui lui donnait des coups de pied pour s'en débarrasser. Hein. Bon, donc les gens qui ne me connaissaient pas, c'est-à-dire l'image qu'ils avaient de moi, c'était une image épouvantable qui était véhiculée par les médias. Les commentaires, c'était « elle porte des boucles d'oreilles, pourquoi ? Elle a un bracelet, comment ça se fait ? Regardez comment elle marche. » Ils se mettaient à genoux devant ma voiture pour filmer mes jambes, vous vous rendez compte ? Et ils avaient même déclaré que j'avais un de mes collants qui était filé. Non, c'est inimaginable l'attitude de ces gens-là. Inimaginable.
C'est propre à la France, vraiment ?
Totalement propre à la France. Totalement et uniquement, parce que j'ai quand même circulé beaucoup. Et puis j'ai vu comment ça se passe ailleurs. Jamais il n'y a des choses de ce genre ailleurs. Jamais. Une femme a été Premier ministre au Portugal sans que ça pose le moindre problème. Je n'ai jamais vu en Espagne... au Parlement, une attitude de ce type. J'en ai parlé avec des collègues espagnols qui m'ont dit que jamais ça n'existait pas. Donc, c'est spécifiquement français.
Vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur.
Oui, mais je ne sais pas ce que c'est que l'erreur. Je n'ai pas le droit de faire rien. Donc, il ne s'agit même pas de faire des erreurs. Il s'agit d'essayer de faire quelque chose, ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai appliqué le programme qui était dans la lettre à tous les Français de François Mitterrand, où il y avait... Mais dès que j'essayais de faire quelque chose, c'était immédiatement critiqué d'une façon ordurière.
Je regarde les noms qui composaient votre gouvernement, Edith Cresson. Roland Dumas, Pierre Jox, Lionel Jospin, Jack Lang. En 1991, ces grands noms de la politique, ils se laissaient gouverner par une femme ?
Les ministres n'ont pas à se laisser gouverner. Donc, les noms que vous citez, je n'ai eu aucun problème avec Pierre Jox, avec Jack Lang, etc. J'ai eu des problèmes avec Roland Dumas, parce que lui, il était extrêmement macho. Mais autrement, les ministres, ils font leur boulot, ils ont suffisamment à faire. Et donc, j'ai eu effectivement des appuis, par exemple de Pierre Jox, des appuis très déterminés.
Edith Cresson, est-ce que vous diriez qu'on vous a saboté ?
Je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça. J'ai été très attaquée, oui, injustement. Ouais.
Parce qu'on peut voir toute la portée symbolique de... Edith Cresson, première femme à Matignon. Et je vois d'autres noms dans votre gouvernement qu'on a connus mieux par la suite. Martine Aubry, Elisabeth Guigou. Est-ce que vous diriez, par exemple, que pour leur carrière, votre passage à Matignon les a empêchés, leur a nui ?
Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Martine Aubry, c'est moi qui l'ai fait nommer. Je ne crois pas que ça leur ait nui. C'est-à-dire que l'idée qu'une femme puisse être ministre pendant un certain temps, ça a choqué. Puis ensuite, ils s'y sont plus ou moins habitués. Mais premier ministre, c'était trop. Là, ils ne pouvaient pas.
Qu'est-ce que ça change, une femme, pour gouverner ?
Rien du tout. Je ne sais pas. C'est en tout cas une question qu'on ne pose pas en Angleterre. On ne l'a jamais posée à Mme Thatcher. Il n'y a qu'en France qu'on pose cette question.
Ça vous semble bizarre qu'en 2021, un journaliste de 37 ans que je suis vous pose cette question-là ?
Non, ça, on est en France, donc rien ne me paraît étonnant. Je suis habituée.
30 ans après, une femme, Ségolène Royal, a atteint le second tour de la présidentielle, 2007. Marine Le Pen, en 2017. La place des femmes françaises en politique, c'est pas non plus un progrès incroyable depuis.
Moi, je peux pas dire que Le Pen soit un progrès. Vous me ferez jamais dire ça. C'est plutôt un danger. Et à mon avis, un danger qui malheureusement risque d'arriver.
Je veux dire par là qu'aujourd'hui, c'est la femme politique la mieux placée.
Oui, si on peut dire. Oui.
Si on peut dire. Quand je reprends votre passage à Matignon, il faut se rappeler, hein, tout de même, vous préparez le marché unique. Maastricht, c'est 1992. Oui. Vous êtes aussi la première à avoir eu un ministre de l'Environnement. Vous parlez de développement durable dans votre discours de politique générale en 1991.
Oui, absolument. Et je me souviens qu'on avait Brice Lalonde et des gens comme ça qui travaillaient avec nous.
Aujourd'hui, Edith Cresson, la gauche, c'est assez naturel, elle doit se tourner plus vers l'écologie.
Bien sûr, elle doit se tourner, tout le monde doit se tourner vers l'écologie, pas seulement la gauche. C'est une préoccupation très importante à terme, parce qu'il y a quand même une menace sur l'environnement qui est très importante. Quand on lit les articles sur la montée des mers, sur la fonte des glaces, sur tous ces phénomènes à moyen et long terme qui sont une véritable menace, il faut effectivement faire très attention. C'est un problème à la fois technique et aussi politique.
Le 30e anniversaire de votre arrivée à Matignon, on a beaucoup parlé cette semaine aussi des 40 ans, bien sûr, de l'élection de François Mitterrand. Sur le plateau de Quotidien, vous avez évoqué les années de préparation qui ont précédé 1981.
Ah oui, on a beaucoup travaillé avant, bien sûr.
La fabrication du programme, d'un collectif. Aujourd'hui, on n'en est pas là à gauche.
On faisait un travail très approfondi, on faisait des groupes de travail, on rédigeait des textes. On constituait vraiment un programme en se mettant d'accord, en se réunissant régulièrement. Donc c'est un fonctionnement qui est un fonctionnement sage, qui met toutes les chances de son côté. Donc je pense que cette méthode est la meilleure.
Mais elle ne se démarre pas à 11 mois d'une présidentielle.
Bien sûr que non. On avait démarré des années avant.
Qu'est-ce que ça nous dit de la gauche d'aujourd'hui ? On n'a pas l'impression que la gauche soit franchement prête.
Enfin, nous, on a fait l'union de la gauche. Hein. Enfin, François Mitterrand, c'était d'ailleurs assez hardi à l'époque. Il a su, François Mitterrand, unir la gauche.
Qu'est-ce qui va arriver en premier, vous pensez, Edith Cresson, à l'Élysée ? Une femme ou la gauche ?
Je ne sais pas. Une femme peut être de gauche, hein. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période extrêmement confuse sur le plan politique et on ne sait pas ce qui peut sortir de tout ça. Il y a en tout cas une certaine instabilité dans la société française qui est préoccupante.
Vous êtes préoccupé de ce qui peut se passer en 2022 ?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. Oui, je suis préoccupée, évidemment.
Quel regard est-ce que vous portez sur, par exemple, sur l'actualité récente ? On a une femme brûlée en pleine rue, des policiers qui sont attaqués, on a des militaires qui signent ou signeraient oui. Des tribunes.
Donc c'est un désordre comme on n'en a pas connu depuis extrêmement longtemps. Et on peut dire que la France va mal. Il y a un malaise, il y a des violences comme on n'en a jamais connu, avec une fréquence extraordinaire. Donc je crois que c'est une situation extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste.
Merci beaucoup, Edith Cresson.
Je vous en prie. Au revoir, monsieur.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h, nous allons revenir sur les 30 ans de la nomination d'Edith Cresson à Matignon avec des femmes politiques de tous bords et toutes générations. Notre dossier avec Michèle Alliot-Marie, Najat Vallaud-Belkacem, Marlène Schiappa notamment. Dans un instant, l'édito politique avec Aurélie Herbemont. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h55 sur Europe 1, l'édito politique d'Aurélie Herbemont. Bonjour Aurélie.
Bonjour Mathieu.
Chef adjointe du service politique d'Europe 1. Alors on a beaucoup parlé ces derniers jours de la région PACA et de l'alliance entre les marcheurs et LR, les Républicains. Ce matin, on parle des Hauts-de-France où le candidat en marche, Laurent Pietraszewski, va présenter sa liste aujourd'hui. On peut dire que la Macronie met le paquet pour contrer le président sortant Xavier Bertrand.
Ah oui, on pourrait appeler ça l'opération Liquidons Xavier Bertrand. Sur cette liste, on est passé d'un ministre candidat, Laurent Pietraszewski, à deux avec Éric Dupond-Moretti, puis trois avec Agnès Pannier-Runacher, quatre avec Alain Griset et enfin cinq avec Gérald Darmanin. Un député LR du Nord se montre taquin. Le président a dû demander au Conseil des ministres qui a une résidence secondaire dans les Hauts-de-France, histoire d'envoyer un maximum de soldats dans cette région la moins macroniste du pays. Et chacun a un rôle bien défini par Laurent Pietraszewski dans cette campagne. À lui, l'économique et sociale, Dupond-Moretti dans le job de rempart au Rassemblement National, Pannier-Runacher à la réindustrialisation, Griset pour prendre soin des petits commerces en zone rurale. Quant à Gérald Darmanin, eh bien c'est le monsieur sécurité d'Emmanuel Macron et surtout l'ancien bras droit de Xavier Bertrand.
Et, oui, et pourquoi un tel déploiement de force ?
Parce qu'à l'heure actuelle, Xavier Bertrand est le plus avancé des présidentiables à droite. Avant ce quasi-séminaire gouvernemental organisé sur les listes nordistes, En Marche plafonnait à 10% dans les sondages. Avec ses renforts massifs, les lignes peuvent bouger. Surtout avec la mise en scène de l'affrontement Dupond-Moretti-Le Pen. Ça peut faire monter le candidat le péniste Sébastien Chenu. Ça peut faire grappiller des points à la liste macroniste pour se maintenir au second tour. Et ça peut affaiblir Xavier Bertrand.
Et c'est là que la stratégie machiavélique se met en place.
Oui, absolument. Soit le RN finit par l'emporter et Xavier Bertrand peut dire adieu à ses ambitions présidentielles. Il l'a dit, s'il perd en juin, il arrêtera la politique. Soit Xavier Bertrand a besoin des marcheurs au second tour pour sauver sa région. Et là, eh bien, ce serait le baiser de la mort. Comment faire campagne, Mathieu, comme anti-Macron, si vous devez votre candidature en 2022 à votre sauvetage par Emmanuel Macron en 2021.
Alors comment est-ce que Xavier Bertrand peut contrer ça ?
D'abord, il va essayer d'arriver loin devant au premier tour pour se donner le maximum d'oxygène. Et il prévient d'entrée de jeu, il n'y aura pas de fusion entre sa liste et celle d'En Marche pour le second tour. Les macronistes n'auront qu'à se saborder s'ils le veulent. Mais même un appel à voter Xavier Bertrand constituerait un boulet, on peut le dire, dont il devrait se défaire pour la campagne présidentielle. La campagne dans les Hauts-de-France sera donc une étape cruciale pour 2022. Et la démonstration ultime qu'Emmanuel Macron veut faire le nettoyage par le vide pour se retrouver à nouveau face à Marine Le Pen.
Votre édito politique, merci Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Il est 7h58 et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Yad Ben Achour, juriste, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques, auteur de « L'islam et la démocratie, une révolution intérieure » chez Gallimard. Marine Le Pen voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à toi, je lui métisse, pardon, excuse-moi. J'étais un petit peu distancié. Bonjour Madame Aurélie Herbemont. Faut pas confondre Aurélie Herbemont, Valérie Darmon. Faut pas se mélanger les pinceaux ce matin. Alors j'entends que Madame Mabrouk veut laisser pendant un quart d'heure la parole à un musulman démocrate qui essaierait de nous faire croire, n'est-ce pas, que l'islam et la démocratie seraient compatibles. Non, écoutez, franchement, on changeait d'invité, hein, parce que nous sommes sur une antenne généraliste de grande écoute comme Europe 1. J'ai une action à gagner, moi, en 2022, n'est-ce pas ? Alors, vous l'aurez invité en 2023, hein ? Là, je n'aurais plus rien à secouer. Non, parce que, en ce qui me concerne, l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Je pense que ma démocratie à moi, elle va pas être non plus tellement compatible avec l'islam. Et je dois dire que non plus. Je n'entends pas. Voilà, merci. Il y avait un seul truc à faire, la technique, ils l'ont loupé, bravo. Non, excusez-moi, c'est mon petit plafond de verre qui vient de se casser à l'instant, c'est magnifique. À chaque fois que je dis ce genre de paroles, ça fait ça. Il va falloir que j'appelle Carglass. Carglass répare, Carglass remplace.
Non, on ne peut pas terminer là-dessus, si. Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse que tout à l'heure, et vous l'avez noté. Yad Ben Achour, invité de Sonia Mabrouk, à 8h15 tout à l'heure. La météo, nous sommes avec Valérie Darmon. Valérie Frisquet.
Eh oui, pas d'ascension pour les températures. Elles restent trop basses pour cette époque de l'année. Avec des maximales entre 14 à Embrun et 22 à Marseille, on a 15 à La Rochelle, à Bourges et Besançon, 16 annoncés à Paris, Biarritz et Tarbes cet après-midi, 17 à Strasbourg et Metz, 18 à Mont-de-Marsan. Et du côté du ciel, eh bien, c'est pas mieux. C'est gris quasiment partout, sauf peut-être sur la façade atlantique et le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous êtes sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous. On est ensemble. On écoute le monde changer.